Bonjour et bienvenue dans les ateliers des métalliers champenois.
Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Mier et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat d'art. Histoire d'artisan est l'association qui valorise l'ingénierie des artisans d'art en mettant en avant l'innovation et la recherche au sein des ateliers. Ce podcast est le reflet d'un univers merveilleux et riche avec lequel collabore Histoire d'artisan. Dans ce deuxième épisode des métalliers champenois, nous accueillons Julien Lacroix, ferronnier. Avec Julien, nous parlons de passion qui colle à la peau, de vocation et d'épanouissement. Julien souhaite faire sa carrière chez les métalliers champenois et prouve qu'être entouré de belles personnes donne des ailes. Belle écoute! Bonjour Julien et merci de m'accueillir dans vos ateliers parce qu'on l'a déjà vu avec Eric, mais vous en avez plusieurs.
Secteur.
Voilà, toi tu fais partie de l'atelier des ferronniers.
C'est ça.
Dans les ateliers des métalliers champenois. Julien, est-ce que tu peux nous raconter la rencontre avec ton métier ?
Je fus initié très jeune au travail du métal. Mon père le travaillait. Il m'a pris très jeune avec lui.
Il était quoi ton père ?
Mon père travaillait en charpente métallique. Il était métallier. Donc il a travaillé une grande partie de sa vie en charpente métallique. Donc il m'a pris très jeune. Et de plus en plus. Il pensait pas que j'allais en faire mon métier. Il m'a toujours dit que ça pourrait servir dans la vie. Et en fait, sitôt le collège, j'ai commencé l'apprentissage.
Dès le collège, mais tu veux dire à partir de la sixième ou
Sortie de troisième.
Et c'était à ce moment-là, c'est un BEP, c'est ça ?
À l'époque, c'était les BEP structures métalliques.
D'accord.
Ouais.
Donc c'était ton choix ?
C'est mon choix, tout à fait.
Alors moi, je vais te poser une question. Si t'es pas d'accord, je la couperai, mais moi, il y a une question qui... En tout cas, des retours que j'ai eus très souvent, c'est que justement, dans ces BEP, on y amenait des étudiants, des élèves, des jeunes qui n'étaient pas forcément passionnés par le métier et intéressés par le métier. Toi, tu t'es retrouvé avec d'autres gens qui avaient envie de faire ça ?
La plupart, oui. La plupart, il y avait même un esprit de compétition au sein de la classe, ce que j'ai vécu. Il y en a qui sont partis, il y en a qui ont raté quelques-uns, et on s'est vite retrouvés entre gens qui voulaient vraiment apprendre. Et en deuxième année, il y avait un réel esprit de compétition à celui qui ferait le mieux à chaque fois. Et ça, c'est le meilleur souvenir que j'ai de l'apprentissage. J'ai eu un bon apprentissage, mais ça, il y avait à l'époque.
Donc toi, tu l'as vécu comme un bon souvenir, justement,
ouais. Celui qui ferait le mieux, celui qui battra l'autre, c'était toujours comme ça.
Donc, BEP, c'est 3 ans, c'est les mêmes...
À l'époque, c'était 2 ans.
2 ans.
2 ans, oui.
Et suite à ça, t'as fait quoi ?
Premier emploi, derrière l'apprentissage, j'étais dans une autre boîte, après j'ai travaillé dans une autre entreprise. J'y suis resté 18 ans. Et 3 ans avant mon départ, je suis retourné chez les compagnons. Pour faire ce qu'on appelle le stage forge. C'est le brevet métier d'art en ferronnerie que j'ai eu. Et après, je suis venu ici. Je me suis fait embaucher ici.
Ok, donc quand tu dis je suis retourné chez les compagnons, c'est parce que tu l'avais déjà fait avant ou tu veux dire que tu es retourné sur les bancs de l'école ?
Un peu les deux, puisqu'il y avait de la théorie, de la pratique. N'ayant pas de bac, j'ai dû repasser toutes les épreuves générales. Français, les maths, tout ce qui va comme un bac, quoi. Et donc, moi, j'avais déjà fait mon apprentissage chez les compagnons. Et donc, j'ai dû retourner là, sur 2 ans d'alternance en gardant mon travail à côté.
Et à ce moment-là, donc là où tu as passé 18 ans, c'était une entreprise qui faisait quoi ?
C'est de la ferronnerie.
Donc, j'en viens à ma question. Qu'est-ce que de la ferronnerie ?
La ferronnerie, c'est principalement donc le travail du métal à chaud. Mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a des assemblages, il y a beaucoup d'assemblages, une grande partie d'assemblages qu'on doit faire après ce travail. Et en fait, c'est former le métal via des styles. Donc en France, c'est assez riche, la ferronnerie française est assez riche à toutes ces époques. Donc ça peut être vraiment fait comme c'est fait à une époque, vous pouvez retrouver du Louis XV, du Louis XVI. Et après, il peut y avoir une partie néo, donc avec une inspiration d'une époque antérieure que nous, on adapte au goût de l'ouvrage qu'on doit faire.
D'accord. Toi, tu t'y connais, tout ce qui est mouvement
Par le temps, on était obligé de les apprendre. Et au brevet métier d'art, j'étais obligé d'apprendre encore plus ça. Et l'art en général, la travailler encore plus. Bon, oui. Après, on connaît jamais tout. On a vraiment des points qu'on préfère par rapport à d'autres. même les artistes, il y a des fois les inspirations dans l'art qui touchent à la ferronnerie. Hein. Des fois, on l'a pas forcément, on connaît pas forcément la spécialité de l'artiste.
C'est quoi toi ta période?
Bon, l'art nouveau.
L'art nouveau. Ouais. Et pourquoi?
J'adore les lignes de l'art nouveau et tout ce qui s'est fait sous l'art nouveau.
Alors moi, je suis nulle sur ça. Je suis incapable de te reconnaître un.
C'est que c'est compliqué parce que même quelqu'un qui s'y connaît peut avoir ce qu'on appelle première période, seconde période. Et il y a des fois, ça peut être trompeur, même la plupart des gens, celui qui s'y connaît est quand même obligé à un moment donné de regarder dans ses livres, ne serait-ce que pour dessiner. Il y a des fois, faut s'en remettre vraiment, avoir l'inspiration, on n'a pas le choix.
Et Art Nouveau, c'est des lignes...
Art Nouveau, c'est ce qu'on appelle les rubans ou les coups de fouet. C'est les beaux fers bien étirés qui terminent. Vous n'avez pas de noyau comme une volute, comme vous avez pu voir en atelier. Ça se termine, tout est filé. Et ça fait un effet de ruban, on appelle ça un ruban ou un coup de fouet.
Parce que c'est oui, tu vois. Donc tu fais tes 3 ans d'apprentissage dans ton entreprise dans laquelle tu étais déjà depuis 15 ans?
Non, je l'ai fait dans une autre.
Ah, tu l'as fait dans une autre. Ok. Donc compagnon. Et suite à ça, donc tu dis, tu rejoins les Métalliers Champenois.
Oui.
Et ça, c'était quand?
Ça fera 4 ans en septembre.
Donc tu rejoins les Métalliers Champenois il y a 4 ans, donc dans la partie ferronnerie. En ferronnerie, donc on a vu avec Eric, Métalliers Champenois, vous travaillez bronze, laiton, acier, inox.
Oui,
et j'en oublie un, je crois.
Aluminium.
Bah,
après, il peut y avoir toutes sortes de toute façon, ça c'est les plus courants, on va dire, qu'on utilise.
Et toi, tu travailles tous ces matériaux aussi?
Ce qui est bien, c'est que en fait, étant serrurier d'origine, puis je m'intéresse quand même à tout. Là, par exemple, je fais une porte en laiton. Donc, on a amené à faire quand même beaucoup de choses. C'est jamais un projet pareil, de toute façon.
Oui, c'est clair. Et comment moi, quand je regarde un objet, je peux savoir si ça a été fait par un métallier?
Ici, tout est assez poussé dans ces ouvrages d'exception. Je veux dire, les assemblages que vous voyez là, c'est pas dit qu'il y a des choses, vous les verrez ailleurs. Il y a la finesse, il y a les techniques, il y a tout ça. Après, la forge pure d'origine, elle comporte beaucoup, beaucoup de détails. Il y a peu de soudure, vous allez avoir des rivets que vous n'aurez pas, un assemblage de métallier. Mais ce qu'on a maintenant, métallier, c'est un métier où on l'a nommé métallier il y a, je crois que c'est une trentaine d'années, je crois, un truc comme ça. D'origine, c'est serrurier. Et comme je vous disais, serrurier, avant, touchait plus ou moins, de loin, près à la forge. Et après, ça a été appelé métallier. Métallier, on est plus dans la menuiserie métallique, les cadres divers et variés, portails. La différence est là, en fait.
Okay.
Mais bon, après, à notre niveau, ça change pas grand chose en fait. Quoi.
Oui, donc toi, le travail que tu fais au sein de l'atelier est pas si différent que le travail qu'Eric fait, c'est ça?
Eric, il est plus sur les éléments de serrurerie fine, on va dire.
Sur les petits éléments.
Il va faire de la rampe très fine, vraiment, ce qui demande des compétences de finesse, c'est nickel, c'est tout précis. Il est plus sur ces éléments-là, Eric.
Okay.
Donc il est chef de secteur de serrurerie et gère tout ce qui est. Bon, après, Eric est très, très, très polyvalent. Hein.
Oui, il a un très, très long passé aussi dans ce métier, donc c'est sans doute normal.
Un très beau passé aussi.
Oui. Donc, depuis 4 ans, chez les Métalliers Champenois. Et donc, toi, tu fais justement ce qu'on disait. Eric va faire peut-être plus les détails, et toi, tu vas faire les structures, c'est ça?
Ah non, nous on fait pas les boulots opposés, mais c'est pas le même travail. Nous, on va être plus sur de la rampe forgée. Eric fera plus de la rampe style serrurerie fine, là où en gros vous avez pas vraiment la forge. Et nous, ça va être plus ça, les rampes, le portail comme vous avez pu voir. Par exemple, là, ça c'est l'exemple type. Eric a fait les ouvrants, donc vraiment la structure inox laiton, et nous on a fait l'intérieur.
Ok, je vois. Très bien. Est-ce que, Julien, tu peux nous raconter une anecdote sur ton métier?
Mais je suis tellement passionné que pour moi-même, j'ai commencé à me faire des tatouages en rapport avec le métier. Il y a déjà un moment que j'ai commencé, c'est pas fini. Et en fait, qui symbolise pas mal de choses à ce niveau-là.
Ok, donc quoi?
Alors, il y a l'enclume avec la toile d'araignée. La toile d'araignée en tatouage, c'est le symbole de perpétuité. Donc, ça veut dire que ça va durer. Ça va durer toujours. J'ai écrit Ferroni sur les doigts en anglais.
Comment on dit en anglais?
Blacksmith. Tombé pile poil.
C'est clair. Black sur une main et Smith sur
Tout à fait.
l'autre. Ok. En vrai, moi, je suis très contente que tu parles des tatouages parce que pendant la visite, j'ai vu ton tatouage Work Hard et Stay Humble.
Ah oui, il plaît celui-là.
Ouais, pour parler un peu de mon parcours, moi, j'ai découvert le milieu de l'artisanat et l'artisanat d'art en 2018. Et quand je vais parler de cet univers, je disais toujours la même chose. Je suis frappée de l'humilité des artisans et des artisans d'art. Je trouve que vous êtes des gens qui ont de l'or dans les mains et qui savent pas forcément que c'est le cas et que vous savez pas forcément. Enfin, en tout cas, vous n'avez pas l'état d'esprit pour vous pavaner par rapport à cet or que vous avez dans les mains. Et moi, c'est, enfin, ton tatouage Work Hard et Play Humble et Stay Humble. Bah, pour moi, ça décrit l'artisan aujourd'hui.
Mais je pense que les vrais de vrais veulent juste bien faire en fait, toujours bien faire, sans pour autant faire de bruit quoi. Amener un projet à terme et c'est fait, on est bien et c'est impeccable quoi. Je pense que c'est ça un peu le but aussi de la manœuvre.
Et oui, et tu parles de bien faire. Et moi, je me suis souvent posé la question de savoir comment un novice peut évaluer la qualité d'un travail artisanal. Et en fait, à force d'aller dans les ateliers, je trouve que l'indice, il est dans les finitions. Est-ce que quand on regarde, on se pose la question de savoir si ça a été fait à la main ou à la machine, si on voit...
Ah, c'est perceptible quand même.
Ouais, mais un travail bien fait, tu vois, un travail de rampe d'escalier, un travail de portail, tu vas pas avoir des coulures, tu vas pas avoir des
Ah non,
bourrelets,
bah
tu...
non, et puis après tout, il peut pas y avoir de traces de choc, il peut pas les
Ouais.
courbes, quand il y a des courbes, ça doit être beau, ça doit être beau à regarder, ça doit être quelqu'un qui est novice doit pas se dire bah il y a quelque chose qui va pas là. Ça
Ouais.
doit être vraiment harmonieux et beau à regarder, c'est le principe il est là déjà.
Est-ce que c'est rond? Est-ce que c'est vraiment
Et après
rond?
quand ça commence à être perceptible à l'œil, c'est pas trop bon ça.
Et ouais, et moi c'est ce que j'ai tendance à dire, c'est même tu vois quand dans ma vie personnelle on va dans des magasins d'artisans et que mes amis ou mes proches me disent et ça Lisa t'en penses quoi? Je dis ben regardons les finitions et on va voir en fait, on va voir si on trouve que les soudures elles sont bien faites, si on trouve que enfin voilà ça se je trouve que c'est un œil qui s'aiguise. Mais petit à petit, on voit si l'artisan, il maîtrise son sujet.
Au fil de voir les choses et
Ouais.
d'aller un peu partout aussi, je pense.
C'est ça. Il faut côtoyer. Finalement, c'est à force de côtoyer l'artisanat qu'on se rend compte si l'artisan est bon ou pas. Et donc voilà, ton tatouage, on en a pas mal parlé. Tu en as d'autres là? Tu as des outils, c'est ça?
Tout ce qui est outil de forge là. Après, il y a celui-là.
Ah, c'est un squelette qui tape sur une enclume.
C'est ça.
Un squelette qui fait le métier de forgeron.
C'est ça, tout à fait.
C'est lequel qui a le plus de sens pour toi? Il y en a un ou pas?
Bon, ils sont tous à l'identique pour moi.
Ouais.
Après, moi, ils représentent la même chose pour moi. Il n'y a pas un plus que l'autre.
Bon, on peut dire littéralement que tu as le métier dans la peau.
C'est ça, tout à fait.
Très bien. C'est beau de voir un vrai, vrai passionné.
Merci. Bah, si c'est bien, c'est qu'ici, on est quand même quelques-uns. Alors que les gens ici sont passionnés. Et c'est bien d'évoluer dans un cadre comme ça, avec des gens comme ça et les projets qu'on a au sein de cette entreprise. On peut que avancer.
Oui, vous évoluez tous avec la même envie
Et c'est vrai que
de
ça,
rendre du beau.
au quotidien, bah c'est le rêve. Ouais, les projets qu'on a là. C'est de renom mondial, l'entreprise est de renom mondial. Je veux dire, après, c'est un vrai plaisir, quoi.
Je comprends et sincèrement, moi j'ai jamais vu d'atelier aussi grand que celui-là. Après, je côtoie surtout des ateliers où les gens sont seuls à leur compte ou avec une petite équipe, Mais ouais, c'est assez impressionnant de voir la, la place que vous avez, les machines que vous avez.
Ah bah même pour quelqu'un du métier, hein, la première fois que je suis venu ici, c'est...
C'est Disney.
C'est, ah bah oui, oui, c'est... Non mais c'est... Les yeux, ils brillent, hein, c'est obligé. Hein.
Ouais.
C'est... Je ne peux pas faire autrement.
Bah c'est bien qu'ils aient réussi à faire une entreprise qui vous donne envie.
C'est une belle histoire, et puis bon, après c'est important d'être bien au travail aussi. Hein.
Ouais, c'est clair. Ce qui me pousse à te poser la question justement de... Ben, toi ça fait 4 ans, quels sont un peu tes projets futurs, tes envies futures?
Bah, moi ça fait oui, 4 ans. Après, en toute honnêteté, j'ai jamais été aussi bien dans une entreprise. Je pense que je déposerai mon dossier de retraite ici. Mais moi, en fait, j'ai déjà eu une première évolution ici, là, en janvier. Donc, je suis passé d'ouvrier à ETAM.
Ah, ETAM ?
Oui.
Ça veut dire quoi ?
Technicien. Donc, moi, mon chef de secteur s'appelle Eric aussi. Et en fait, pour projet de le remplacer fièrement quand il partira en retraite, en fait. Et c'est venir, oui, comme quelqu'un comme ça, comme les anciens que je côtoie au quotidien, de continuer sur la même lignée et puis... Ça, c'est le premier. Après, j'aimerais bien essayer de faire les meilleurs ouvriers de France à un moment donné. Quand, je sais pas. Je me pose la question, j'y pense régulièrement, on verra.
Il y en a beaucoup des mofs dans le ferronnier.
Ah oui, bah, il y en a tous les ans, normalement. Ça va un peu changer à un moment donné, c'est pour les épreuves. Mais je pense qu'à un moment donné, je vais quand même essayer de le faire.
Et c'est quoi les épreuves, justement, de mofs ferronniers?
Bah, il y a une présélection basé sur un dossier de recherche et vous avez une épreuve d'atelier.
Tu dois pas présenter d'œuvre.
Bah c'est soit maintenant ils font faire la pièce en un temps. C'est plus comme avant de ramener la pièce, d'avoir tant de temps pour la faire extérieure. Maintenant faut la faire sous jury en fait.
Ah, tu dois la faire dans les ateliers.
Mais s'ils ont pas, bah dans les ateliers qui eux ils choisissent. C'est déjà fait amusant chez les compagnons il y a quelques années. Et comme des fois ça change à voir quand j'en serai là. Je sais pas encore.
Ok, ben, on te le souhaite. On a hâte de te voir, mof ferronnier.
Merci.
Avoir le petit col bleu, blanc, rouge.
Et après, oui, continuer sur la lancée, travailler ici, continuer toujours essayer d'être au-dessus.
Ouais.
Vraiment remplir la mission à chaque fois.
Mais c'est bien parce que c'est j'avais eu des retours justement dans le fait que quand tu es artisan aujourd'hui et que tu te retrouves dans une entreprise, les possibilités d'évolution sont pas très grandes et variées. Et ici, ils ont réussi justement à te donner des possibilités, des ouvertures de
bah d'évolution. Après, c'est pareil, je pense que... Je pense qu'on m'a fait confiance, je le rends autant que je peux. Et après, les gens qui m'entourent en 4 ans de temps m'ont fait réellement grandir, quoi. Mmh. Que ce soit mon chef au quotidien m'a laissé faire et m'a encouragé, et voilà. Et même des gens comme Eric. Après, tout le monde a du bon, hein. Mais après, je me sens réellement bien entouré ici. Et après, je pense que si on est carré, réglo, ça peut que marcher. Après, il y a des endroits, peut-être que ça marcherait pas quand même. Mais ici, même Jérôme, il n'y a pas... Je pars régulièrement aux États-Unis. Ça...
Pour l'installation?
Oui.
Ouais. Tu vas travailler, quand tu vas aux États-Unis, vous allez travailler dans les ateliers américains ou pas?
Mais ça arrive.
Ouais, ça arrive. C'est quoi, vous faites des sessions ou...
Ça dépend. Ça dépend de la demande, ça dépend de ce qu'on a à faire. C'est un peu varié. Bah, c'est joindre l'utile à l'agréable. Bah, moi, la première chose que je vois, c'est jamais le voyage, c'est le travail avant tout, mais après, c'est un autre cadre, on va dire. Ça permet de voir autre chose, et puis voilà.
Dans les ateliers américains, c'est des artisans français ou c'est des artisans américains ?
Bah, français, et il y a des ouvriers américains.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé de découvrir des techniques en côtoyant les artisans américains ?
Non, ça reste les mêmes que... Okay. Parce que nous, c'est sa dominante française, on va dire.
Ok, donc ouais, à tout moment, tu peux dire... Enfin, tu peux demander à partir, à être délocalisé aux États-Unis parce que tu as envie, je sais pas quoi.
Moi, je n'ai jamais évoqué la chose, mais bon, après, moi, je pense que ça sera là comme je fais là. Je pense que ce sera comme ça. Hein. Déplacement, et puis. Après, de toute façon, j'ai dit l'avenir qui m'attend là, donc de toute façon, je resterai ici. Puis ça sera. Parce que des fois, il faut y aller pour relever des rampes ou. La dernière fois, on est parti 3 semaines à Palm Beach.
Pour faire une installation ?
Pour relever une rampe, pour pouvoir la fabriquer ici, il y a toute une étape, mais pour pouvoir la fabriquer là, il fallait relever tous nos côtes là-haut.
Quand tu dis relever, c'est prendre les dimensions, c'est ça ?
Bah, en gros, oui, ça va être prendre les dimensions. Mais une petite fabrication à faire sur place, faut qu'on cintre nos fers, faut qu'on s'ajuste et tout. On a des réglages à faire bien particuliers. Après, on le renvoie ici, puis c'est la rampe qui est près de mon poste de travail. Là.
Celle sur laquelle tu es en train de travailler. Mmh. Donc c'est toi qui as fait, la prise de mesure et le relevage, comme tu dis.
Bah, c'est Eric, mon chef. Qui est spécialisé, qui est très fort en rampe, qui m'apprend justement à faire ça sur place. C'est une corde qui manquait à mon arc et c'est lui qui m'apprend.
Donc tu continues d'apprendre des nouvelles techniques
Toujours, à pied ici, ouais, on a toujours. Il y a toujours de la recherche, quoi qu'on fasse, de toute façon. Après, le seul truc qui va vous servir, c'est votre expérience avant, ce que vous avez déjà vu, et après, de toute façon, travailler avec les gens qui m'entourent. Il y a toujours un truc qui est quelque chose en plus qu'on va apprendre sur chaque chantier. Mmh. Pour ma part, étant plus jeune qu'eux, il y a toujours quelque chose, quelqu'un a toujours quelque chose à amener que vous allez découvrir. Et puis, de toute façon, on ne sait jamais tout. Donc.
Et est-ce que ça vous arrive de faire des projets qui ne sont pas des commandes clients, mais pour lesquels vous avez envie de faire justement de la recherche de techniques et du coup un peu des projets parallèles aux commandes clients ?
Souvent même, on est obligé de trouver des techniques suivant le projet qu'on a à faire. Il y a toujours une recherche à faire, en fait, quelque part. Mmh. Il y a des choses non, et il y a des choses où c'est plus pointu. Vous prenez par exemple tout ce qui est derrière vous, les textures, et bah, il faut trouver la méthode pour le faire et que ça aille et pouvoir le reproduire à plus grande échelle. Mais on a souvent quand même des essais de recherche à faire. Il y a des choses, non, on n'a pas besoin. Ça se fait sans, quoi. On connaît, on sait comment on fait. Il n'y a pas de problème, mais il y a une partie du travail qui demande quand même toujours de la recherche.
Mais ça, c'est un point qui est important et qui, je trouve, n'est pas assez mis en avant dans les ateliers. Ce fait que quand on signe un contrat client, notamment sur du sur-mesure, souvent, il va y avoir l'aspect, comme tu dis, recherche. Pour atteindre l'objectif du contrat qui a été signé.
On est obligé. Puis après, il y a quand même de la recherche technique en parallèle. Hein. Donc avant que ça arrive à nous, il y a quand même des études, tout oui. Ça. Après, il y a d'autres secteurs où ils font aussi de la recherche dans les finitions. Tout ne passe pas forcément par nous. Après, ça dépend de ce qu'il y a à faire, je dirais. Quoi.
Moi, je trouve ça très chouette, toute cette partie recherche au sein des ateliers. Du coup, on arrive au mot de la fin, Julien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que toi tu souhaites pour le métier de ferronnier en général ?
Bah, ce que je souhaite, c'est qu'il perdure, que des jeunes s'intéressent réellement à ce métier qui a peut-être été à un moment donné délaissé. Et que des gens y prennent vraiment goût et s'épanouissent dans ce métier-là, comme beaucoup arrivent à le faire.
Ouais, et toi, tu ressens le fait qu'il y a eu une baisse d'intérêt pour ce métier ?
Bah, clairement, oui. Après, des années en arrière, quand moi j'étais au collège, on m'a dit que la vie professionnelle, c'était le bac, quoi. C'était pas l'apprentissage, quoi.
Tu t'es senti en... Comment tu t'es senti, d'ailleurs, à ce moment-là ? Parce que c'est dur d'entendre que ce que t'as envie de faire, toi, C'est parce que la société attend tout.
En ce moment, pas fait grand chose personnellement.
Tu t'en fichais.
Moi, en ce moment, pas choqué plus.
Après, c'est un peu énervant d'entendre ça. C'est un peu, moi, mes parents, ils m'ont laissé le choix, quoi. Après, si eux, c'est leur façon de faire. Mais bon, je pense que tout le monde y a eu un peu le droit, ceux qui partaient en apprentissage. Après, moi, je suis pas allé en apprentissage par échec scolaire, contrairement à ce qu'on entend toujours.
C'était par désir.
C'est par désir, quoi. On est toujours en train de dire l'apprentissage, échec scolaire, mais bah, peut-être, c'est peut-être possible, quoi. Sûrement même, mais c'est pas tout le monde. Et je pense qu'on n'a pas à dire ça à une personne qui sort du collège aussi, quoi. Si c'est son choix, c'est son choix.
Bah ouais, c'est un peu, bon, de toute façon, c'est un sujet assez récurrent, mais c'est un peu un cercle vicieux entre t'es en échec scolaire, donc on te met dans les, ce qu'on appelle les voies de garage, hein, qui ne devraient pas s'appeler comme ça, mais on te met dans une voie de garage. Du coup, ceux qui sont dans ces fameuses voies de garage sont pas passionnés. Enfin, moi, c'est ce que j'ai rencontré. Toi, t'as eu la chance d'avoir que des gens qui étaient passionnés par ce métier dès post-brevet. Et moi, j'en ai rencontré beaucoup qui ont un peu été obligés d'aller jusqu'au bac, parce que si ils décidaient de faire leur métier dès le post-brevet, bah ils se retrouvaient avec des gens qui n'étaient pas passionnés et qui du coup n'avaient pas envie d'aller en cours, n'étaient pas motivés. Et ces gens pouvaient souffrir justement de côtoyer d'autres personnes pas... Enfin toi c'est génial que tu t'es évolué dans un...
Ouais, je pense qu'il y a une volonté de la personne aussi, quelque part, quand on regarde bien.
Je pense que c'est en train d'évoluer. Je sais pas si tu as vu, il y a eu un événement en fin mai, avec le ministre de la Culture qui a déclaré un peu les axes en faveur des métiers d'art décidés par le ministre de la Culture. Et il y a un des axes, c'est la jeunesse et l'éducation. On espère en tout cas que enfin, les enseignants et tout le corps enseignant soient sensibilisés au fait que c'est pas parce qu'une personne est en échec scolaire qu'il faut la placer dans un métier qui ne correspond pas.
Moi j'étais pas en échec scolaire, j'avais des résultats, il n'y avait pas de soucis parce qu'avec mes parents j'avais pas le choix. Et en fait ils voulaient absolument me mettre au bac, mais pour eux, le métier d'art est... ça leur parle pas. Je vois les profs, c'est toujours comme ça en fait, c'est ancré dans leur mentalité, quoi. C'est pas bien en fait, c'est triste, mais je sais pas si les gens là ils changeront quand même.
Peut-être qu'en les sensibilisant ils vont peut-être évoluer.
Je suis pas sûr. J'ai vraiment un doute là-dessus, hormis celui qui choisira l'apprentissage et puis qui s'en sortira. J'ai un gros doute quand même là-dessus, quoi. Ça, à un moment donné, fallait travailler. J'ai rien contre les gens des bureaux, mais fallait travailler dans les bureaux, quoi.
Oui.
Et c'était l'avenir. Moi, j'ai une cousine, elle avait fait le... Ouais, qui est plus vieille que moi. Ouais, pas mal plus vieille que moi. Elle avait fait une dactylographie à l'époque, là.
C'est eux qui tapaient à la machine,
là. Ouais, mais ça, on a tourné des milliers de personnes vers ça, mais ça n'a aucun débouché, quoi. C'est un truc, c'est devenu quoi, maintenant? Non, mais je veux dire, c'était quand même des diplômes poussés à l'époque. C'était pas des petites choses. Et maintenant, c'est des métiers qu'on a malheureusement, entre guillemets, inventés. Mais maintenant, quelle valeur ils ont. Et on a poussé les gens à faire ça, quand même, quelque part. Et moi, je suis pas convaincu que... J'espère que je me trompe. J'espère que ça, mais je suis pas convaincu qu'au sein de l'éducation nationale, ces choses-là, ils changent.
Ouais. Bah écoute, en effet, on espère que ça change et que tout le corps enseignant soit sensibilisé au fait que ben, les métiers d'art, c'est pas, comme on disait tout à l'heure, c'est pas une voie de garage, quoi.
Après, il y a une culture quand même là-dedans. Pour arriver quand même à un moment donné, tout le monde a dû s'intéresser à l'histoire de son métier, à tout ce qui s'ensuit. C'est pas seulement être dans un atelier en bleu, quoi. C'est pas du tout que ça, quoi. C'est pas...
Ah oui, c'est sûr, mais même, tu vois ce que tu disais, c'est que tu connais les mouvements architecturaux, tu as dû te former à ça, et ça, tu l'as appris dans des bouquins qu'il a fallu que tu...
J'étais en cours, pas mal de travail à côté, du travail en cours, après, c'est toujours pareil, même avec les gens que vous côtoyez réellement du métier, quoi. Mais c'est pas juste être en bleu dans un atelier, quoi.
Même ce à quoi j'avais pas conscience, mais un forgeron doit connaître les réactions chimiques et physiques qu'il y a dans le métal. Okay. Pour pouvoir anticiper de ben là, pourquoi il ne faut pas que je tape à cet endroit.
Tout à fait. Mais c'est pas vrai. Il y a un travail physique, certes, parce qu'il faut taper, mais c'est pas. Faut travailler avec sa tête aussi. Hein. Ouais. C'est pas je tape. Hein, la force, c'est pas que ça. Il y a une grosse partie physique, c'est vrai, mais il y a des parties où il faut être minutieux et faire attention à ce qu'on fait, quoi. C'est pas juste taper comme un sourd pour faire quoi. Non, il y a des moments où il faut taper et il y a aussi une partie où c'est la tête qui doit marcher. Là.
Mais écoute, on souhaite qu'il y ait plein de jeunes qui comprennent l'intérêt des métiers d'art, la valeur des métiers d'art et surtout tout ce qu'il y a autour de ce qu'on appelle le savoir-faire manuel. Il y a aussi un savoir-faire intellectuel qui est hyper important. Et être artisan, ce n'est pas juste, comme tu dis, taper.
Tout à fait.
Trop bien. Et ben merci beaucoup Julien. Merci pour ton temps. Et puis ben je te dis à très bientôt puisque on se revoit cet après-midi dans les ateliers.
Ça marche.
À toutes.
Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ce deuxième épisode des Métalliers Champenois avec Julien Lacroix vous aura plu. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail des artisans sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir leur métier en images. À bientôt avec une nouvelle histoire !